Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour Culture Média. Au menu, tous les médias, toutes les formes de culture. Vous trouverez évidemment Louise Bernard pour le journal des médias et les audiences télé d'hier et du week-end. Bruno Donnet pour ses télescopages. Et en fin d'émission, Marc-Antoine Lebray et ses stories. Notre infomédia se penche sur la glissade d'un géant Netflix. La plateforme américaine de streaming enchaîne les revers en 2022. Une perte d'abonnés, une première en 10 ans. Perte relative, mais qui a entraîné une dégringolade en bourse. À l'écran, les abonnés s'étonnent, ils constatent un réel changement de ligne éditoriale depuis le début et le lancement du mythique House of Cards. Alors que se passe-t-il à Netflix et quel avenir pour la plateforme ? Réponse avec deux très bons connaisseurs du dossier, l'un côté programme, l'autre côté business. Nos invités ensuite, Zoé Garcia et Déborah Assoun, respectivement comédienne principale et directrice de collection de la série Scam France, une série unique en son genre, d'abord parce qu'elle est en temps réel, c'est-à-dire que si un événement survient le samedi à minuit, ce sera diffusé le samedi à minuit. La saison 10 a démarré il y a quelques jours, les 9 précédentes saisons ont déjà été vues par 310 millions de personnes, vous allez comprendre pourquoi. Enfin, le romancier et essayiste Patrick Chamoiseau, prix Goncourt 92 pour Texaco, il publie un ouvrage de méditation poétique et musicale, ça s'appelle Baudelaire Jazz, il n'est pas tout seul, il y a un saxophoniste dans l'affaire, il y a de la musique dans l'affaire, il y aura également son portrait d'avant la célébrité, le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h, Culture Média, c'est parti. Bonjour Louise Bernard.
Bonjour Philippe, bonjour tout le monde.
Au sommaire de votre journal des médias, Louise.
Pierre Palmade prépare une émission télé. L'Arcom met en demeure CNews et va devoir se pencher sur des propos homophobes sur C8. Et puis on parlera de la nouvelle émission de M6, de la pâtisserie pour changer.
Mais d'abord, les audiences qu'ont regardées les Français hier soir.
Ils ont regardé TF1, le film Rien à déclarer, Danny Boone, ça marche toujours. Hein. 4 720 000 téléspectateurs, 25,2% de part d'audience. Deuxième, c'est M6 avec le magazine Zone Interdite, c'était sur les héritages. Et c'était un très bon niveau, 2 350 000 téléspectateurs, 12,4% de part d'audience. Et troisième, France 2 avec le film Les plus belles années d'une vie, là c'est un peu moins bon niveau, 1 710 000 téléspectateurs, 8,7% de part d'audience.
On passe maintenant aux audiences du week-end, au résumé.
Week-end où le service public a été leader des audiences les deux soirs, hein, c'est régulièrement le cas le week-end. Et comme souvent, France Télé peut dire merci à ses fictions, merci à la série Candice Renoir de retour. Alors en baisse par rapport aux saisons précédentes, mais toujours à un très bon niveau samedi soir. Et merci au téléfilm Dans l'ombre des dunes, juste en dessous des 4 millions de téléspectateurs, devant France 3, vendredi soir.
Et les deuxièmes places, j'en déduis que c'était pour TF1.
Oui, pour les deux soirées, avec pourtant deux propositions fortes. Un samedi soir, c'était la finale de The Voice, une audience au même niveau que la finale précédente, celle des candidats All-Star, mais beaucoup plus faible que celle d'encore avant. Deuxième proposition forte, c'était vendredi soir, une nouvelle émission animée par Camille Combal, Stéréo Club, lancement correct, mais l'audience n'est pas non plus mirobolante, 2 700 000 téléspectateurs. Et puis rien de spécial à noter du côté des autres chaînes.
Culture Média.
On commence ce journal des médias avec une actualité télé. Pierre Palmade prépare une émission pour France 2.
L'humoriste travaille sur un prime time inspiré des émissions de variété de Mariti et Gilbert Carpentier, c'est-à-dire sans présentateur, ce sont les artistes eux-mêmes qui animent l'émission. Information révélée par Le Parisien aujourd'hui en France. Alors l'émission mêlera des sketchs et des chansons, et puis comme invité, des profils assez variés. Isabelle Nanty, Carole Bouquet, Muriel Robin, Nolwenn Leroy ou encore André Dussolier, et des artistes qui avaient déjà participé aux émissions des Carpentier à l'époque, Véronique Sanson, Eddie Mitchell et Nana Mouskouri. Les tournages sont prévus dans les semaines à venir.
Télévision toujours, CNews, mise en demeure par l'Arcom. L'Arcom, c'est le nouveau nom du CSA.
Oui, les mises en demeure, ce sont des avertissements du gendarme de l'audiovisuel avant sanction. CNews en a reçu deux vendredi. La première séquence concernée date de février dernier. L'un des chroniqueurs de l'émission de Pascal Pro, Yvan Rioufol, avait tenu des propos polémiques sur le ghetto de Varsovie. Il avait affirmé que, je cite, quand le ghetto de Varsovie a été créé en 40, c'était un lieu de contaminé, c'était un lieu hygiéniste, c'était un lieu qui était fait pour préserver du typhus. Fin de citation. Affirmation fausse, hein. L'Arcom souligne qu'il y a un consensus au sein de la communauté scientifique pour considérer que les raisons sanitaires mises en avant par l'Allemagne nazie étaient un prétexte qui visait au regroupement des Juifs, première étape de leur extermination. CNews a donc été mise en demeure pour manquement à l'obligation d'honnêteté et rigueur de l'information, mais pas seulement, également pour défaut de maîtrise de l'antenne, car personne en plateau n'avait réagi, n'avait corrigé les propos du chroniqueur. personne n'a réagi non plus lors de la deuxième séquence qui a valu cette deuxième mise en demeure à CNews. C'était en novembre dernier. L'infectiologue contesté Christian Perron avait déclaré au sujet du Covid « Il n'y a pas de cinquième vague. L'épidémie est quasiment terminée en France ». C'était faux, à l'opposé de la réalité sanitaire à ce moment-là.
Et l'ARCOM a un autre dossier à gérer. Il vient d'être saisi après une séquence homophobe sur C8.
C'était dans « Touche pas à mon poste » jeudi dernier. Un des chroniqueurs de l'émission, Raymond Abou, a déclaré qu'aux yeux de certains, les personnes homosexuelles n'étaient pas normales. Il y a des gens, je cite, qui n'aiment pas les PD, qui disent « tant qu'ils ne m'emmerdent pas, ce n'est pas mon cul, ils font ce qu'ils veulent ». La délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, la DILCRA, a donc décidé de saisir l'ARCOM et a expliqué sa décision sur Twitter avec ce message. Les comportements homophobes ne relèvent pas de la liberté d'expression et n'ont pas leur place dans notre société. La chaîne C8 a, elle, supprimé le replay de l'émission et le chroniqueur en question s'est excusé d'avoir été mal compris, d'avoir été maladroit. Il affirme qu'on a compris l'inverse de ses propos.
TF1 décroche une interview de Kylian Mbappé.
Oui, il a choisi le Paris Saint-Germain et TF1, donc joli coup pour la chaîne.
Ah oui.
Le footballeur sera sur le plateau du 20h de Gilles Boulot ce soir. Il justifiera sa décision de re-signer avec le PSG pour 3 ans de plus. Et il y aura aussi une conférence de presse dans l'après-midi, juste avant.
M6, ça n'a rien à voir, lance aujourd'hui sa nouvelle émission autour de la pâtisserie.
Oui, l'Académie des gâteaux. Alors le principe, 24 candidats en reconversion.
Ils sont 9, non ?
24 candidats en reconversion professionnelle suivent une formation pour devenir pâtissier sous l'œil des caméras de la 6, sous l'œil aussi du directeur de l'Académie, Cyril Lignac, et de 2 professeurs. Chaque semaine, les participants se battent pour le titre de meilleur élève et 3 d'entre eux sont éliminés. Celui qui gagne remporte un contrat dans l'une des pâtisseries de Cyril Lignac, pas mal, hein, 10 000 euros, et une formation CAP. Alors, ce n'est pas la première émission de cuisine lancée par M6, hein, loin de là. On peut citer Top Chef, La meilleure boulangerie de France, Le meilleur pâtissier, Objectif Top Chef, Mon gâteau est le meilleur de France, Tous en cuisine, et je dois encore en oublier.
Il y a aussi Un dîner presque parfait dans un autre genre.
Oui, tout à fait, ou encore Cauchemar en cuisine, si on les cite aussi. Une autre émission de La cuisine sera d'ailleurs diffusée cet été autour des régions. Donc j'ai voulu en parler avec l'un des patrons de la chaîne. Pourquoi cette passion pour la cuisine sur M6 ? Pierre-Guillaume Ledent, directeur des programmes de flux d'M6.
La cuisine, ça fait vraiment partie des piliers de la chaîne. On aime parler des choses qui soient concernantes. Quoi de plus concernant que la cuisine ? Les téléspectateurs aiment énormément la pâtisserie. Et les Français aiment beaucoup la pâtisserie. Avant, ils la mangeaient, mais maintenant, ils la font. Et le confinement a été un énorme accélérateur sur cette soif de faire soi-même de la pâtisserie.
Et au-delà de la pâtisserie, ce qui a plu à M6, c'est l'idée de reconversion professionnelle qu'il y a dans le programme, totalement dans l'air du temps. Plus de 4,5 millions de Français envisagent de changer de travail dans les 2 ans. Et puis, dernier argument, l'implication de Cyril Lignac.
Dès le départ, en enjeu du programme, il a souhaité offrir un contrat pour être dans son équipe au dernier candidat qui sera encore en lice. Donc le fait qu'il offre ça comme dotation, ça montrait qu'il était très impliqué. Et il ne nous a pas démenti, puisqu'on a vu un Cyril comme on l'a rarement vu. On a vu le Cyril professionnel. Donc, beaucoup plus exigeant, mais aussi passionné et délivrant beaucoup de savoir.
L'Académie des gâteaux qui ouvre ses portes tout à l'heure à 18h40 sur M6.
L'actualité des médias, c'est également celle d'Europe 1. Le sport va prendre davantage de place sur l'antenne à la rentrée.
Avec une émission tous les soirs, 7 jours sur 7, de 20h à 23h30, Europe 1 Sport, présentée par Lionel Rousseau. Au programme, une bande de chroniqueurs pas encore dévoilés, des rendez-vous réguliers Omnisport et des matchs commentés depuis les stades. Et des synergies vont être menées avec le groupe Canal autour du rugby, du football. Et ça va vous plaire, Philippe, des sports mécaniques. Ah. Ce sera à la rentrée, juste après l'été.
En Afghanistan, les femmes journalistes obligent à leur tour de se voiler intégralement à la télévision.
On ne voyait plus que leurs yeux et leur front hier à la télé. Après avoir résisté depuis le début du mois de mai en portant un simple foulard, elles ont dû finalement se plier aux ordres des talibans car ils ont menacé les journalistes et les chaînes qui les emploient. Si les femmes ne s'étaient pas voilées intégralement, alors elles auraient perdu leurs emplois. Ça a été le cas d'ailleurs de certaines journalistes. En soutien à leurs consoeurs, certains hommes, journalistes hommes, ont porté un masque noir pour couvrir leur visage, y compris à l'antenne.
Et bientôt, une série documentaire sur Harry et Meghan.
Oui, dans un tout autre genre. Elle sera diffusée sur Netflix d'après le journal Page Six. La plateforme les a suivis en voyage à New York et aux Pays-Bas lors des Invictus Games. Vous savez, ce sont ces jeux créés par le prince Harry qui sont réservés aux militaires handicapés. Mais pas seulement. Hein. Les caméras ont aussi pu les filmer dans un endroit beaucoup plus intime, leur maison en Californie. On ignore en revanche si leurs enfants apparaîtront. Le couple avait signé un contrat contrat juteux avec Netflix, c'était en 2020, des millions de dollars pour produire plusieurs projets. Certains médias parlaient de 100 millions de dollars d'ailleurs. La date de diffusion de cette série est encore en discussion. Netflix aimerait que ce soit la fin de l'année parce que c'est le moment où vont sortir les mémoires du prince Harry. Le couple, lui, préférerait attendre l'année prochaine.
On en parlait justement de Netflix dans l'info média du jour. Hasard de l'actualité. Merci beaucoup, Louise Bernard.
Vous voyez, je vous fais des transitions toutes trouvées, c'est magnifique.
Ces infos à retrouver dans la newsletter média. L'inscription est gratuite, c'est sur europe1.fr. À demain, Louise, pour un nouveau journal des médias.
À demain.
Dans un instant, justement, notre info média du jour, on y vient. Une perte de 200 000 abonnés, des turbulences à Wall Street. Pour la première fois en 10 ans, la plateforme Netflix connaît des revers. Que se passe-t-il chez le géant américain? On en parle avec nos deux invités, Raphaël Grably, il est rédacteur en chef tech à BFM TV et BFM Business, et Pierre Longlet, c'est un autre genre, journaliste série à Télérama. Le business, les programmes, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
Toudoum, c'est par cette virgule, j'arrive à le dire, c'est le lundi matin, c'est toujours dur de se remettre en route, virgule sonore que chaque série ou programme produit par Netflix débute. Netflix, le géant qui a révolutionné de manière de consommer la télévision, plus de 220 millions d'abonnés dans le monde, c'est considérable, plus de 7 milliards de dollars de chiffre d'affaires, mais la plateforme est devenue elle-même ces dernières semaines le sujet d'une série économique et médiatique. Perte d'abonnés, chute de l'action en bourse et, dernier épisode en date, l'annonce la semaine dernière du licenciement de 2% de l'effectif de la multinationale du divertissement. Alors que se passe-t-il à Netflix? Est-ce le début d'une chute? Et si oui, comment l'enrayer? Élément de réponse avec deux très bons connaisseurs du dossier, chacun sous un angle différent. Bonjour Raphaël Grably.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef tech, c'est-à-dire technologie à BFM TV et BFM Business. Pierre Longlet avec nous, avec vous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste série à Télérama, vous occupez davantage du contenu. D'un mot, question pour chacun, est-ce que la situation actuelle de Netflix était prévisible, que ce soit du point de vue économique pour vous, Pierre Grably, ou d'un point de vue éditorial, Pierre Longlet, est-ce que vous sentiez chacun le coup venir, si j'ose dire? Pierre Grably.
Raphaël Grably.
Raphaël, monsieur... pardon.
Oui, alors, on peut le penser comme ça. Après, on peut se dire qu'il y a eu une petite illusion quand même pendant le Covid. C'est quand même l'impression que j'ai eue, c'est-à-dire que pendant le Covid, il y a une surévaluation de Netflix et des actions en général de la tech. Et on s'est demandé finalement si on n'allait pas continuer comme avant, c'est-à-dire à rester chez soi et à faire du binge-watching et regarder Netflix. Bon, finalement non, parce qu'on reprend très rapidement les anciennes habitudes. Et donc finalement, cette surévaluation a un peu disparu. Et après, on parlait justement de ces 200 000 abonnés en moins. Alors c'est rien par rapport aux 220 millions d'abonnés au niveau global. Mais après, il faut aussi voir le symbole, c'est-à-dire que symboliquement, Netflix en fait... arrive à un plafond. Tant qu'il y a une croissance et qu'on voit de la croissance presque à l'infini, c'est très bien. En fait, il faut se souvenir ce que c'est qu'une action en bourse. Le cours d'une action, c'est l'avenir. Et donc, si on arrive à un plafond, on se dit « Ah, bah là, ça va peut-être devenir un peu plus compliqué. »
C'est pas la valeur intrinsèque, c'est la confiance mise par les investisseurs.
Exactement.
Je pose la même question à Pierre Longlet. Est-ce que vous voyez le coup venir au niveau des programmes? Est-ce que vous avez l'impression que quelque chose se délitait?
Fatalement, le but de Netflix, ça a été de sortir de la masse au début. Ça a été de créer des choses qui allaient faire que les gens allaient dire « Sur Netflix, ils font pas comme les autres ». Maintenant, il y a plein d'autres plateformes qui sont arrivées, donc il y a une énorme concurrence.
Disney Plus,
Apple TV Plus, bientôt HBO Max en France. Et donc, il a fallu décider si on allait continuer à segmenter, comme on dit, c'est-à-dire à viser un public précis et à faire des choses un peu risquées, donc faire des séries qui sortent vraiment du lot, ou à devenir ce qu'on dit aujourd'hui de Netflix, c'est-à-dire TF1+, c'est-à-dire une chaîne grand public qui essaye d'attraper le plus de monde à la fois. Et quand on essaye de plaire le plus de monde à la fois, on fait rarement des choses extrêmement risquées, on fait plutôt des choses passe-partout. Et donc, pour le critique que je suis, au début c'était des choses pointues, on se disait ah quand même c'est risqué, et maintenant on se dit ouais ça je l'ai déjà vu, ah oui ça ils ont rempli un tableau Excel, oh le fameux algorithme a fait son travail, et donc on est déçu.
Alors on va parler de business avec vous Raphaël Grably, donc on l'a dit 200 000 abonnés et dans le monde en moins au premier trimestre 2022 par rapport à la fin de l'année 2021. Conséquence cette annonce, l'action Netflix à Wall Street a dévissé de 23%. Et la plateforme explique cette perte, non pas à cause du Covid, mais à cause de la guerre en Ukraine. Mmh. Est-ce que c'est une explication satisfaisante selon
Alors,
vous?
Si on parle vraiment de ces 200 000 abonnés en moins, oui, parce qu'en fait, en fermant ses services en Russie, Netflix a perdu 700 000 abonnés. Donc, s'il n'y avait pas eu ça, il serait à plus 500 000. D'accord. Mais non, ce n'est pas ça qui est important.
Est-ce que ce n'est pas la même chose d'abord pour tous les autres?
Oui, aussi, déjà. Donc, c'est clair. Non, mais c'est clair. Et puis, en plus, il y a quelque chose qui est beaucoup plus important que ça. C'est Netflix qui annonce qu'ils vont perdre probablement 2 millions d'abonnés au prochain trimestre. Et donc, le signal qui est envoyé au marché, c'est de dire, eh bien, l'expansion infinie, c'est terminé. Maintenant, les bénéfices, on atteint un plafond. Enfin, le chiffre d'affaires, on atteint un plafond. Et donc, pour continuer à gagner de l'argent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réduire les coûts. Et donc, on en vient à ces licenciements, 150 personnes, 2% des effectifs. Donc, on arrive en fait à une normalisation de Netflix, c'est-à-dire on se demandait jusqu'où ça allait grossir, parce que quand même, Netflix, en streaming, ça date de 2007, l'expansion mondiale, ça date d'un peu plus tard, en France, ça fait 8 ans, et donc, ça devient une entreprise mature. Et donc, c'est pas que Netflix est en danger, c'est simplement que Netflix entre dans une autre phase où Netflix est, on va dire, devenu l'outil le plus mainstream dans son domaine. C'est un peu le Kleenex au Palin, c'est devenu une marque qu'on utilise, voilà, par abus de langage pour dire d'où, le Netflix and Chill, c'est-à-dire, en gros, je suis chez moi.
Je connaissais pas Netflix and Chill.
Le Netflix and Chill, c'est vraiment, je suis chez moi sur mon canapé et je regarde des séries. Mais finalement, maintenant, ça marche autant pour les autres, pour Disney, pour Apple et pour Prime Video. Donc voilà, Netflix arrive à un plafond. Et maintenant, la question, c'est aller prendre des nouveaux abonnés. On ne va plus pouvoir les prendre à tour de bras. Il va falloir aller les grappiller un à un. Ça, c'est beaucoup plus difficile.
Justement, quand même, Netflix conserve une base très solide d'abonnés. 221,64 millions, c'est-à-dire 640 000 abonnés, plus 221 millions, et le chiffre que ça fait. Des abonnés qui vont avoir le plaisir de découvrir la saison 4 de la série Stranger Things, ce vendredi 27 mai. Netflix mise beaucoup sur cette série, série dans laquelle des ados des années 80 défient des monstres venus d'un monde parallèle, extrait de la bande-annonce.
Je vous ai fait prendre un nouveau départ loin d'Hawkins. Je pensais que vous y seriez en sécurité. La guerre se prépare. J'ai bien peur que tes amis Dawkins ne soient dans l'œil du cyclone.
Je n'ai plus de pouvoir.
Je ne sais pas comment te le dire autrement, alors écoute. Sans toi, on ne gagnera pas cette guerre.
Charles Anglais, pourquoi et en quoi cette saison 4 de Stranger Things est-elle très attendue ?
Bah déjà, ce qu'on l'a attendu, parce qu'il y a eu le Covid et tout, donc ça a été repoussé. Donc ça fait 3 ans que la saison d'avant était arrivée, ça passe très vite. Et puis, pour continuer sur le débat qu'on avait, en fait, c'est peut-être la série qui symbolise ce que Netflix pourrait être de mieux, en tout cas dans leur visée.
Expliquez.
Parce qu'à la base, c'est une série qui a été créée par les frères Duffer, qui viennent du cinéma indépendant plutôt américain, qui ne sont pas du tout des noms connus, contrairement à ce que Netflix essaye de faire en faisant venir des gros gros producteurs aux États-Unis maintenant. C'est une série qui n'était pas attendue comme un carton chez Netflix. C'était un petit pari intellectuel presque de dire on va jouer sur la nostalgie des années 80 et tout, et qui a presque créé un mouvement entier de nostalgie. Et en même temps, c'est un énorme blockbuster, c'est-à-dire que maintenant ils ont des moyens dingues, que la nouvelle saison et les épisodes, ils font tous plus d'une heure, et même ça finira sur 2 épisodes qui sont des films dans leur longueur. Et donc on est au croisement vraiment de ce qui se pourrait espérer faire de mieux, c'est-à-dire quelque chose qui marche très fort, qui a quand même une vraie intention à la base, qui a une intention grand public quand même, qui est de jouer sur E.T., sur toutes les années 80, tout ce qui a marqué une génération entière, mais quand même avec une idée de faire quelque chose d'un peu différent. C'est pas un pur produit de consommation, c'est une idée artistique qui est devenue un produit de consommation. Et en plus, qui vise plutôt un public jeune, qui est le public qu'on sait fuit les chaînes traditionnelles pour aller sur les plateformes. Et du coup, a priori, c'est une arme de guerre lourde pour Netflix, mais ça ne va pas durer éternellement. Et surtout, ça fait un moment que ça a commencé. L'inquiétude, elle est sur les nouveautés.
Les nouveautés, les inquiétudes au sujet de Netflix, on continue d'en parler, aussi bien du point de vue des programmes que du business. Culture Média continue, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Et si Netflix avait atteint son asymptote et si c'était son point maximum, et si les investisseurs s'en détournaient, et si le nombre d'abonnés cessait de monter après une croissance continue depuis près de 10 ans. Raphaël Grably, vous êtes rédacteur-chef tech et sur BFM TV et BFM Business. Question pour vous, Netflix s'est encore créé la surprise, bat des records. À la rédaction de Culture Média, on s'est dit, tiens, c'est dingue, tous les 6 mois, il y a une série qui bat des records. Exemple, en octobre 2021, c'était Squid Game qui était la série la plus regardée de l'histoire de Netflix. En janvier
janvier 2021, Bridgerton, la série la plus regardée. En novembre 2020, Le Jeu de la Dame, qui a même fait vendre des échiquiers. Est-ce que les chiffres sont gonflés ?
Non, ils ne sont pas forcément gonflés. Alors, il y a eu des petits débats sur la méthodologie de Netflix pour comptabiliser des audiences. Au début, c'était simplement sur les premières minutes. Après, maintenant, ils ont fait un peu plus de transparence. Maintenant, c'est un peu plus exhaustif.
Enfin, ils n'ont pas fait plus de transparence. Il n'y a pas de transparence puisqu'on n'a pas ces chiffres.
Non, c'est clair. Mais après, il y a quelque chose qui est logique aussi. C'est que l'assiette est plus large puisque forcément, le nombre d'abonnés continue à augmenter jusqu'à aujourd'hui. Donc forcément, quand on lance une série au niveau mondial, si on a 200 millions d'abonnés, versus celle d'avant où on en avait 150 millions, logiquement, il y a des chances qu'elle fasse toujours mieux. Et donc la différence, c'est que là, ça va peut-être s'arrêter. C'est-à-dire que les grosses séries Netflix vont probablement arrêter de faire toujours mieux parce que l'assiette a arrêté de grandir. On reste a priori sur un plateau qui est en gros 220 millions d'abonnés.
Je vois bien l'engouement qu'il y a autour de nous, autour de moi, partout sur Netflix. On a l'impression que c'était mieux au début Netflix. Est-ce que c'est une impression ou est-ce que c'est corroboré par les faits, Pierre Langlais ? Comment a évolué le catalogue Netflix depuis ses débuts ?
C'est difficile à dire parce qu'il est très très large. Alors moi je parle en termes de création originale, donc vraiment les séries créées par Netflix. Il faut quand même savoir qu'il y a un paquet de séries que Netflix nous vend, Netflix original, et en fait c'est des acquisitions comme on dit, ils ont acheté des séries faites par d'autres chaînes ailleurs dans le monde.
Oui, mais si personne ne peut les voir, je pense par exemple à La Casa de Papel qui était sur une toute petite chaîne catalane.
Oui,
c'est quasiment une création parce qu'il fallait être en Catalogne,
oui, mais artistiquement pour l'avoir vu. Ensuite ils l'ont récupéré, donc ensuite c'est devenu une création.
Non, je veux dire par là que c'est pas Joséphine Ange Gardien que tout le monde aurait pu voir, voilà ce que je voulais dire.
Certes, je veux dire, ils rendent visibles dans le monde de très très bonnes séries qui ne le sont pas par ailleurs. Donc ça, c'est une bonne chose et c'est ce qu'on fait historiquement toutes les chaînes de télé. Maintenant, l'interrogation, elle est sur la qualité des créations maison. À la base, on a attaqué avec House of Cards, qui était quelque chose qualitativement de très élevé, David Fincher, etc. Voilà, une grande série d'auteurs, comme on peut dire. Et aujourd'hui, clairement, les séries Netflix sont plus souvent des grands divertissements. C'est pas ça le grand divertissement, c'est juste que ça s'adresse pas exactement au même
public.
Qu'est-ce
que vous appelez un grand divertissement ?
Ben, c'est-à-dire des séries, comme je disais tout à l'heure, TF1+, c'est-à-dire des séries qui doivent s'adresser à un public de 7 à 77 ans, qui jouent pour beaucoup sur des codes très familiers, le polar, des genres, la comédie romantique, des choses qui vont aller toucher le plus de monde possible, et non, à la différence de certaines plateformes, notamment, c'est vrai que Apple joue un peu ça, Prime Video aussi, vont essayer de lancer des choses plus violentes, plus segmentantes, enfin voilà, qui vont chercher à aller bouger les lignes éditoriales.
Vous pensez par exemple à une série grand public, Lupin, avec Omar Sy.
Voilà.
Acteur populaire, série populaire,
voilà.
Maurice Leblanc, Arsène Lupin.
D'un point de vue critique, aucun intérêt.
Il n'y a pas de torture, il n'y a pas de meurtre,
il
n'y a
pas de sang qui gicle. Non, mais ce n'est pas seulement la violence, c'est aussi l'originalité du propos, la complexité de la narration. Lupin, c'est vraiment une série, on l'aurait eu en prime time sur TF1, on aurait pensé que c'était une série TF1. Et encore une fois, à chaque série, son public, à chaque série, ses intérêts. Moi, je trouve que Lupin, d'un point de vue artistique, n'a aucun intérêt. Ça ne veut pas dire que c'est hyper mal fait ou très mal joué. On adore tous Omar Sy.
Alors, Raphaël Grably, il y a des changements éditoriaux du côté de Netflix, mais également au niveau du marketing. Révélation du New York Times, Netflix pourrait mettre en place d'ici la fin de l'année un système de limitation des codes d'accès pour éviter les abus de partage des comptes. Ça peut faire fuir des abonnés. Et en même temps, ils le savaient que les comptes étaient partagés. Ça les a servis pendant un temps.
Alors, quand je disais que jusque-là, Netflix prenait les abonnés à tour de bras et que maintenant, il faut aller les grappiller, on arrive au moment clé où maintenant, il faut aller chercher les futurs abonnés. Et ça, c'est absolument énorme. Le partage de comptes, on estime qu'il y a en gros 100 millions de personnes qui, dans le monde, regardent Netflix sans payer Netflix en partageant les comptes de leurs amis. 100 millions versus 220 millions d'abonnés au total. Donc, c'est absolument phénoménal. Donc, effectivement, ce que veut faire Netflix, c'est de potentiellement limiter ce partage de mots de passe, de code Netflix. Mais techniquement, en fait, c'est assez compliqué. Déjà, c'est assez agressif vis-à-vis des abonnés. Et puis ensuite, il y a Spotify qui avait essayé de le faire il n'y a pas si longtemps que ça. Le problème, c'est comment on détermine que ce n'est plus un partage, par exemple, dans une famille.
Qui est un proche ? Est-ce que c'est votre fils ou est-ce que c'est votre pote ?
C'est ça. Alors, Spotify avait dit on va géolocaliser les gens. C'est-à-dire qu'on va se dire, bah, si on ne se connecte pas du même endroit, on va considérer que c'est un autre compte et qu'il faut repayer. Ok, je sais pas, j'ai une résidence secondaire, je suis simplement une famille où on vit pas ensemble. Enfin, potentiellement, ça peut poser problème. Donc c'est assez compliqué, ils vont être assez difficiles à chercher, ces 100 millions. Et puis jusque-là, Netflix laissait faire aussi, parce qu'ils considéraient quelque chose de très simple, c'est que finalement, c'était une forme d'essai prolongé qui coûtaient pas très cher, et puis qu'in fine, il y en avait toujours qui allaient derrière se convertir et aller payer Netflix.
Et puis peut-être aussi une révolution, la publicité, on annonce qu'elle pourrait arriver sur Netflix. Est-ce que ça va pas à l'encontre de la philosophie de Netflix? Puisque ce qu'on disait, ce qu'il y a de formidable, c'est que ok, c'est payant, mais il n'y a pas de pub. Ouais. Tu appuies, ça démarre. Et alors, ça finirait? C'est
alors,
terminé?
Pas dans les abonnements actuels. L'idée, ce serait de faire, on va dire, quelque chose d'un peu mixte. C'est un abonnement moins cher, mais en échange, on a de la pub. Et là encore, on dit qu'il faut aller chercher de plus en plus d'abonnés. Bien, Netflix, aujourd'hui, c'est minimum 7€ par mois. Et donc, il faut aller chercher les abonnés qui ne peuvent mettre que 3-4€ par mois. Et pour aller chercher ces abonnés qui ne peuvent mettre que 3-4€ par mois, on est obligé de compenser. On est obligé de compenser avec de la publicité.
Pierre Longlet, je me tourne vers vous. On parlait de Lupin tout à l'heure, série française avec Omar Sy qui a fait le tour du monde, dont on dit qu'elle a très très bien marché. Il y a une série dont on vient d'apprendre qu'elle n'aura pas de saison 2 sur Netflix. C'est drôle, nous avions reçu ici sa créatrice Fanny Herrero qui avait créé 10%. Voici ce qu'on pouvait lire sur Télérama à propos de cette série. Drôle, Fanny Herrero signe enfin la première bonne série française de Netflix. C'était Marlène Japy qui écrivait cette critique. Et puis finalement, pas de deuxième saison. Que s'est-il passé?
Marjolaine Jarry, juste pour ma collègue de Télérama. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que visiblement, les chiffres n'étaient pas assez bons. On ne saura jamais ce que c'est que le chiffre pas assez bon. Fanny Herrero, que j'ai interviewé pour Télérama, dit quand même qu'il y avait beaucoup de monde. Donc, à ses yeux, en tout cas, c'était beaucoup de monde.
Alors, c'est très étrange, parce que même elle a vu des chiffres, mais pas tous les chiffres.
Non.
Ça dit de l'opacité qui règne au sein de Netflix.
En tout cas, c'est leur façon de fonctionner. On sait très bien, les chiffres de Netflix ont toujours été difficiles à avoir. Il n'y a pas une grande transparence par rapport à ça. Ça n'empêcherait pas de faire des séries de qualité. Pour moi, la question n'est pas là. C'est juste qu'elle a eu 28 jours. Donc maintenant, on sait que c'est à peu près la règle. S'il y a 28 jours, donc on n'a pas fait un bon démarrage, si les chiffres au départ sont pas bons, on dégage. Et le problème, c'est qu'il y a plein de séries qui ont besoin d'un peu de temps pour s'installer. Et que Netflix a cette vision du binge-watching où tout le monde doit se ruer sur une œuvre. Il y a des œuvres qui demandent un peu de temps.
La Casa de Papel, je m'en souviens, ça a mis beaucoup de temps.
Mais bien sûr, le buzz, c'est ça aussi, le bouche-à-oreille. Donc après, évidemment, sur une création maison qui a été marketée, etc., si on considère que ça n'a pas pris tout de suite, c'est que ça ne prendra pas. D'un point de vue intellectuel et critique, c'est très dommage parce qu'on se dit, Netflix avait là tenu l'occasion avec quelqu'un comme Fanny Herrero de dire, voyez comme on laisse un peu de la place aux auteurs aussi, ils peuvent faire des choses de qualité chez nous. Là, le message qui est envoyé à tous les scénaristes français, c'est c'est pas forcément l'endroit où je vais pouvoir prendre des risques et faire ce que j'ai envie de faire. Donc peut-être que je vais aller à la concurrence. Peut-être que Netflix s'en fout parce qu'ils préfèrent avoir des choses qui vont cartonner d'entrée de jeu et que les auteurs, ils font pas des choses qui vont cartonner d'entrée de jeu. Mais d'un point de vue critique et intellectuel, c'est quand même un signal qui est assez négatif.
Merci beaucoup Pierre Longlet, on peut vous lire dans Télérama. Merci à Raphaël Grably, rédac chef tech sur BFM TV, BFM Business. On peut vous retrouver sur les antennes respectives. Merci d'avoir été avec
nous. Merci à vous.
Pour vos analyses. Dans un instant, on parle de la 10e saison d'une série pour ados qui cartonne, s'appelle Scam. 310 millions de vues en 9 saisons. C'est inspiré d'une série danoise. Nous serons avec la scénariste Déborah Assoun et la comédienne principale de cette 10e saison, parce que ça change toutes les saisons, le comédien ou la comédienne principale, à tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour Zoé Garcia.
Bonjour.
Vous êtes comédienne, jeune comédienne. Question pas gratuite. Quel âge? Vous n'avez plus l'âge d'être lycéenne?
Non, 21 ans. Et c'est ma première radio.
Bienvenue dans Culture Média. Votre actualité, vous portez la saison 10 de la série Scam France qui a démarré au début du mois. C'est l'histoire en temps réel d'une bande de potes, des filles, des garçons dans un lycée parisien, d'où ma question. Ils sont en terminale ou en première. Déborah Assoun, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice de collection de cette série Scam France pour cette 10e saison. Vous aviez démarré à ce poste à la 7e saison. C'est un format norvégien. Scam en norvégien, ça veut dire honte en français. Question à toutes les deux. La honte, c'est un moteur des relations et du monde des ados?
Ah bah oui, carrément, je pense. Surtout quand on est au lycée, c'est première expérience sociale, c'est là un peu où on se forme auprès des autres, donc ouais, carrément.
La honte?
La honte, oui, c'est ce qui fait aussi qu'on apprend la vie, qu'il ne faut plus avoir honte, et c'est comme ça qu'on devient adulte, en tout cas, c'est un peu le message de Scam.
Peut-être que le monde a changé, que les réseaux sociaux ont fait changer le monde, parce que quand je me souviens de mes années ados dans les années 70, la honte n'était pas un moteur, donc il y a des choses qui ont changé, et c'est en cela notamment que cette série est si intéressante. Alors, c'est une série de France Télé, mais qui ne passe pas en linéaire sur une chaîne classique, visible sur le site, il faut être précis pour bien expliquer, France TV/, et aussi sur une chaîne YouTube dédiée. Les 9 premières saisons ont totalisé déjà plus de 310 millions de vues, ce qui est absolument considérable. Et avant qu'on parle du contenu, il faut raconter le principe. C'est une série en temps réel. Qui veut expliquer le principe ?
Alors, c'est une série en temps réel. Donc, par exemple, c'est sur deux mois environ. Mm-hmm. Dans la semaine, par exemple, s'il y a une scène qui passe le lundi à 8h30, il y a écrit lundi à 8h30 sur la scène et elle passe vraiment lundi à 8h30. Donc, elle est découpée en scène dans la semaine et le vendredi à 18h, il y a l'épisode complet avec toutes les scènes de la semaine et des scènes en plus quand elles ont lieu le vendredi soir.
Alors, chaque saison, c'est la dixième, est bâtie autour d'un personnage. Cette année, cette saison, le personnage central, c'est Anaïs, joué par vous. Zoé Garcia, qui est-elle? Avant qu'on raconte ce qui lui arrive, c'est quel genre de fille, Anaïs?
Anaïs, c'est une ado un peu populaire du lycée, elle est avec sa bande de copines, voilà, elle vit, elle va passer le bac.
Elle est populaire? C'était un peu la peste avant.
C'était un peu la peste, mais c'était un personnage populaire. Un petit peu anecdotique, avait des apparitions un peu ponctuelles comme ça, et voilà, finir avec une saison, c'est une belle ascension pour ce personnage, je pense.
Voilà, et l'ascension, là où c'est très intéressant, c'est une mise en abîme, c'est que c'est l'ascension d'un personnage et d'une comédienne. Là, pourquoi vous avez choisi Zoé Garcia pour cette saison? Pourquoi elle? Pourquoi son personnage qui n'était pas mis en valeur les précédentes saisons?
Alors bah déjà parce que depuis la saison 7, Charlie Monsara, qui est la réalisatrice, avait noté le talent de Zoé. Et c'est vrai que nous, on avait envie de la faire plus jouer. Il y avait déjà cette première envie. Et puis il y avait aussi l'envie de parler de ce sujet, de cette thématique sociétale qui est le viol conjugal chez les jeunes. Et que ce personnage d'Anaïs, qui est un personnage en effet populaire, où le regard des autres surtout a beaucoup d'importance pour elle, allait aussi avec cette thématique-là. Et c'est une fille qui dit girl power sur les réseaux, mais qui finalement ne sait même pas trop ce que c'est le féminisme. Et ça nous permettait d'avoir une saison aussi sur ça, sur l'éveil au féminisme, par cette thématique sociétale.
On va entendre un extrait. On est vendredi à 22h07. Donc vous comprenez maintenant pourquoi je donne tous ces détails. Zoé, vous êtes dans votre chambre avec vos deux copines, Sacha et Tiffany. Vous leur tirez les cartes quand soudain, la question évidemment, question inévitable, des amours arrive sur la table.
Moi, toi, sinon là, il se passe quoi avec Hugo? Je crois que c'était l'amour fou.
Non, mais ça va, hein, c'est juste qu'il s'est passé un truc que j'ai pas trop kiffé et du coup, bah depuis, ça me bloque un peu. C'est tout.
Mais il s'est passé quoi?
Si tu me dis qu'il a pêché une autre meuf pendant les vacances, je dis à Clément de le cancel direct.
Ouais, toi, tu vas te retrouver un mec en 3 secondes, lui, il va être tout seul et je suis bien sûr,
il va regretter, il va être là, allez! Non, mais les filles, c'est pas ça, calmez-vous. Non, mais c'est juste que, bon, en gros, la dernière fois, on rentrait de soirée, on était bourrés. Et je me sentais vraiment archi mal, j'avais grave envie de buzz. J'avais pas envie de voilà, quoi. Mais il a mis un petit peu de temps à comprendre.
Il t'a forcé?
Non, mais tout de suite, drama, pas du tout. C'est juste que... Enfin, tu sais, il était bourré aussi et il a commencé à me doiter. Il a pas compris que c'était pas l'ambiance.
Mais... Enfin, je veux dire, tu lui as dit que tu voulais pas?
Oui. Enfin, après, c'est pas comme si je l'avais repoussé hyper fort non plus, donc...
Il t'a fait quoi?
Bon, je sais pas, les filles, je sais plus. Ça va, il m'a pas violée non plus. Calmons-nous, tout va bien. Putain, j'aurais jamais dû vous en parler. Je savais que ça allait être un truc de ouf, alors qu'en vrai, y a rien.
Avant qu'on parle du fond, Zoé Garcia, envie de bush, ça veut dire quoi?
Ça veut dire envie de vomir. C'est mes expressions un peu à moi.
C'est les petites impros de Zoé Garcia.
C'est votre expression à vous?
Enfin, c'est pas la mienne, mais c'est une que j'utilise, oui.
D'accord, envie de bush. Maintenant, ça aussi, ça peut donner envie de bush. Le viol conjugal, on imaginait que ça touchait des un conjugal, on suppose qu'il y a le mariage. Mm. On n'imagine pas ça, on le voit pas comme ça. Et c'est en ce sens que c'est très intéressant. Pourquoi ce choix cette saison de cette problématique chez les jeunes, justement, qui sont non mariés?
Le viol conjugal veut dire le viol dans le couple, en fait, dans l'intimité. Et c'est vrai que nous, on trouvait ça intéressant d'en parler chez les jeunes parce que déjà, bon, c'est le viol le plus banal du monde. Dans la première scène où le viol est mis en scène, voilà, c'est quelque chose de finalement très calme, pas du tout dans la violence, pas du tout les images qu'on a du viol qui est le violeur dans la rue qu'on ne connaît pas, puisque 90% des viols sont commis par des gens qu'on connaît et se font en général comme ça, dans sa chambre à coucher. Et donc, c'est vrai que nous, ça nous intéressait beaucoup parce que ça nous permettait de nous dire que c'était peut-être un guide aussi pour des jeunes filles à qui ça arrivait, de se dire qu'elles n'étaient pas seules et qu'on les croyait.
Mmh. Parce que même elle, quand votre personnage d'Anaïs en parle avec ses copines, elle leur dit « mais c'est rien, ça va ».
Elle est complètement dans le déni parce que dans l'imaginaire collectif, ça, c'est pas un viol. Donc elle comprend pas du tout ce qui lui arrive, c'est son copain, elle est amoureuse de lui, donc forcément, elle se dit pas du tout qu'elle est violée.
Et puis elle lui dit arrête, et lui doit lui dire 3 fois, 4 fois arrête.
Bah c'est
arrête.
Ça, en fait, c'est vraiment le désir de l'un qui prend le dessus sur le consentement de l'autre, en fait.
On est dans cette zone grise, on continue de parler de scam. Pourquoi cette série est si emblématique? Pourquoi ça marche? La série d'origine s'est arrêtée au bout de 5 saisons. 4 saisons. La vôtre, c'est la 10e saison et ça risque peut-être de continuer. C'est jamais pour rien ces choses-là. Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
On parle de Scam France et la saison 10 à voir sur France.tv et France.tv/. C'est comme ça que ça se dit. Déborah Assoun, c'est la directrice de collection depuis la saison 7. On est à la saison 10, c'est vous dire si ça marche. Zoé Garcia, c'est la comédienne centrale de cette saison. Vous incarnez Anaïs. On va entendre un autre extrait. Nous sommes le vendredi 21h58. Vous êtes avec votre copine Sacha et vous avez décidé d'organiser un date à 4 car vos deux petits copains sont amis et ils font du hand ensemble. Sauf que depuis votre révélation de la semaine passée, votre copine Sacha ne supporte plus du tout votre petit ami Hugo et elle a du mal à le cacher.
Qui veut quoi? Ma petite influenceuse, qu'est-ce que tu veux?
Je veux bien un autre mojito. Merci.
Très bien. Sacha, tu veux un truc? Hein?
Rien, merci.
T'es sûr que tu vas prendre une pinte?
Non, je sais pas, je vais voir.
Allez, là, t'es pas déjà bourré quand même? Elle est bourrée.
Non, ouais, je crois que c'est ça.
Elle est bourrée.
J'ai juste pas soif, c'est tout.
Eh bah, bonne ambiance. Vraiment, on se marie. Ouais. T'es sûr, vraiment? Allez!
Non, mais c'est relou, quoi.
Meuf, je t'ai juste proposé un verre, hein. Tranquille.
Ouais, et moi, je t'ai juste dit non. Tu passes à autre chose?
C'est quoi, y a un problème?
Mon problème?
Ouais.
Mon problème, c'est les gens qui font genre ils sont chill alors que pas du tout.
Ah ouais. Putain, c'est le petit chien qui se rebelle, c'est ça?
Putain, Hugo, non.
Mais sérieux? Putain, bah attends, quoi, c'est vrai? Elle, c'est un petit chien, elle te colle de ouf là tout le temps, c'est un petit chien.
Tu te calmes, c'est ma pote par contre.
Il y a du vrai, il y a du vécu, il y a de vous dans cette scène?
Ah bah oui, totalement.
Racontez, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a de vous?
On se permet pas mal d'impro, on change jamais le fond des textes, mais c'est vrai que on a nos expressions, on a notre langage à nous, et du coup on puise un peu dans notre expérience personnelle forcément pour nourrir nos personnages, et là ça a été le cas dans cette scène.
Chill, c'est se détendre, pour une fois que je connais un mot de John. Déborah Assoun, comment vous travaillez? Comment vous faites pour rester juste au niveau du vocabulaire, des dialogues? C'est pas vous faire injure de dire que vous n'êtes plus une ado, donc vous n'avez plus les codes de la cour de récré, comme moi non plus d'ailleurs. Comment vous travaillez?
Alors, sur cette saison, on est deux directrices de collection. Donc, l'autre s'appelle Charlotte Véquier. Je le dis parce que c'était important pour cette saison, parce que c'est vraiment une saison qui a demandé beaucoup, beaucoup de travail au niveau du sujet et au niveau aussi de comment on en parle, justement, et de comment on en parle avec les mots d'aujourd'hui. Après, moi, je ne suis pas pour mettre de l'argot partout parce que je trouve que ça démode de toute façon.
Ça vieillit et ça marque
la série aussi. Mmh. Donc, moi, j'ai besoin de me dire que la série, elle va être vue dans 10 ans et qu'elle va être autant appréciée. Après, je sais aussi que les comédiens, en effet, et puis je connais comment Zoé travaille, donc je sais qu'ils vont rajouter des mots par-ci, des mots par-là qui vont faire que ça rend encore le truc beaucoup plus réel et beaucoup plus ancré dans une modernité. Mais moi, comment je travaille dans l'absolu avec mon équipe d'auteurs, c'est qu'on reste très connecté en fait. Surtout, on regarde beaucoup de comptes Insta, on écoute beaucoup les jeunes,
dans le métro, dans les cafés, vous écoutez.
Mais bon, si je faisais un truc sur des boulangers, j'irais dans des boulangeries en fait. Ouais. Donc je vais dans des cafés, je vais dans des métros, je suis attentive en fait. C'est le principe.
Alors dans cette saison, Anaïs dit souvent t'as peur, et la réalisatrice Charlène Monsara, c'est pour ça que je vous demande, elle a révélé que c'est une expression qu'elle connaissait pas. Ça veut dire quoi, t'as peur?
Ça veut dire t'as peur, mais c'est un peu une expression qu'on utilisait. Ça vient de TikTok, un peu tous ces médias sociaux.
Ça veut dire quoi?
Ça veut tout et rien dire en fait. C'est vraiment une expression. C'est en mode t'as peur. Ouais, ça veut tout et rien dire.
C'est incroyable parce qu'en fait on n'a rien compris. C'est ça qui est extraordinaire.
Mais ça, c'est pas moi qui l'écris, le tapeur. C'est Zoé qui le rajoute. Mais bon, tant mieux. Et après, il faut pas en abuser non plus parce que.
Oui. Et c'est polysémique. Zoé Garcia, comment vous avez vécu cette irruption en première ligne, en pleine lumière? Quel effet ça fait?
C'est spécial. Moi, je m'y attendais pas du tout parce que, comme je vous ai dit, Anaïs c'était un personnage pas du tout central, qui était un peu anecdotique. Du coup, d'en terminer avec une saison, j'étais vraiment super contente, surtout avec la thématique. Qu'il y a cette année, c'était fou.
Et c'était fou, mais ça continue.
Oui, ça continue. Là, on démarre la promo. Du coup, c'est un peu nouveau pour moi. J'ai jamais été rôle principal. Donc, ça fait longtemps que je fais ce métier. Et là, c'est vraiment. C'est vraiment cool, j'aime bien.
J'ai oublié, il y a des éléments clés de l'histoire qui ne sont visibles que sur Instagram. Il faut être abonné à Insta si on veut bien comprendre l'intrigue, c'est ça?
Alors, alors, l'intrigue, on peut la comprendre en regardant juste la fiction, c'est le principe, et c'est pour les fans vraiment qui aiment beaucoup la série, qui aiment beaucoup les personnages. On a en plus des Insta de personnages, en fait, chaque personnage a son Insta, et il y a des échanges de textos aussi, qui se font sur l'Instagram de Scam, la série, qu'on peut suivre aussi, et voilà, ça rajoute des informations en plus, mais c'est pas nécessaire pour comprendre l'histoire.
Zoé Garcia, c'est votre Insta ou c'est un Insta de votre personnage Anaïs, alors, géré par quelqu'un de l'équipe ?
C'est ça, moi j'y ai pas du tout accès, c'est vraiment une équipe de Transmédia qui gère tous les comptes Instagram de tous les personnages de la série, donc moi j'y ai pas accès.
Bien sûr, c'est scénarisé, évidemment.
C'est scénarisé et voilà, on prend les photos sur le set pendant les prises et elles sont diffusées après sur le compte Instagram, donc ça nourrit vraiment la backstory du personnage, c'est hyper cool.
Déborah Soune, il y aura une saison 11 ou pas, et avec vous ou pas ?
Alors, je ne sais pas, je ne suis pas dans ces discussions-là. Et quoi qu'il arrive, ça ne sera pas avec moi, ni avec Shirley. Voilà, pour nous, on clôt cette génération. Il y a même une intrigue avec le personnage de Redouane, qui est joué par Abdallah Sharki, qui est dans la saison 10 pour vraiment clore cette génération. Voilà, on voulait leur faire une belle fin et pour leur dire au revoir. Voilà.
Dernière question très rapidement, Zoé Garcia. Vous savez ce que vous allez faire après ? Pas aujourd'hui dans la journée, mais professionnellement ?
Bah, pour l'instant, je passe des castings. J'attends un petit peu. Je continue mon petit travail, mon petit bout de chemin.
Vous avez eu le bac depuis très longtemps.
Oui, je l'ai eu en 2018.
Je précise pour les gens qui pensent que vous êtes des vrais lycéens, non. Lycéennes. Tous les épisodes à voir le vendredi à 18h. La série Scam France aussi à voir sur France.tv. Il faut faire un slash et écrire ensuite slash. C'est pas facile à expliquer à la radio. Merci d'avoir été avec nous en direct. Culture Média continue évidemment après les infos de 10h. Bruno Denet va arriver pour ses télescopages chroniques qui scrutent les médias de très près. Notre invité, c'est le romancier et essayiste Patrick Chamoiseau, prix Goncourt 92 pour Texaco. Il publie un ouvrage de méditation poétique et musicale. Ça s'appelle Baudelaire Jazz. Et puis dans les indispensables, Laure d'Autriche va nous emmener dans les coulisses d'un opéra de Wagner. Et puis Camille Junot. Ah, magnifique, je ne savais pas que c'était aujourd'hui. On va parler du palais du facteur cheval et aussi de Jean-Michel Othoniel, l'artiste contemporain. Marc-Antoine Lebray en fin d'émission. Quel programme ? À tout de suite sur Europe 1.